Nous lirons un extrait de l'Évangile de Matthieu, au chapitre 9 à partir du verset 35, jusqu'au chapitre 10, verset 8. Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Il y enseignait dans leur synagogue, proclamant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant les foules, il fut pris de pitié pour elles, parce qu'elles étaient harassées et prostrées comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est abondante, mais les ouvriers peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Ayant fait venir ses 12 disciples, Jésus leur donna autorité sur les esprits impurs pour qu'ils les chassent et qu'ils guérissent toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, que l'on appelle Pierre, et André, son frère. Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le collecteur d'impôts, Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée, Simon, le zélote, et Judas Iscariote, celui-là même qui le livra. Ces 12, Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes. Ne prenez pas le chemin des païens et n'entrez pas dans une ville de Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. En chemin, proclamez que le règne des cieux s'est approché. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Amis, frères et sœurs, l'évangile de ce matin débute par le parcours que Jésus fait à travers les villes et les campagnes d'Israël, en Galilée, à proximité de Capharnaüm, en guérissant toutes sortes de maladies et d'infirmités. Jésus se trouve devant la misère de son peuple, non seulement les maladies et les handicaps, mais aussi la pauvreté, l'exclusion, la solitude. Le contexte est difficile et inquiétant. Il y a des insurrections populaires contre l'occupant romain, suivies de répressions sanglantes. Il y a aussi les détresses quotidiennes, comme ces épidémies de fièvre ou ces maladies qui touchent les enfants en premier. Il y a ces infirmes à vie, ces démons qui rendent fous. Il y a les deuils, la misère et pour certains, le manque de travail. Et par-dessus tout, il y a l'absence de Dieu. Le gardien d'Israël, où se trouve-t-il? Et pourtant, le peuple, fidèlement, essaie comme il peut de mettre en pratique une loi religieuse exigeante, difficile à respecter. En effet, à ce moment-là, la loi de Moïse est très alourdie par une multitude de traditions qui sont autant de prescriptions minutieuses, parfois impraticables, qui génèrent un sentiment de culpabilité persistant. Jésus est là, au milieu de son peuple, il attire la foule qui s'étonne, qui attend, qui observe, qui espère. Cette foule a besoin d'entendre une parole. Elle attend une parole qui la rejoigne, qui renouvelle son espérance. Et pour le moment, la foule ne sait pas encore que Jésus est venu pour elle. Et pour l'instant, elle ne voit en lui qu'un guérisseur, quelqu'un qui sait réconforter, consoler. Et la foule s'accroche au basque de Jésus. Elle erre sans savoir où elle va. Et c'est cela qui émeut Jésus jusqu'aux entrailles. Elle est harassée, prostrée, et cette attitude révèle une détresse encore plus profonde. Elle révèle l'état d'abandon dans lequel se trouve Israël, privé de berger, privé d'accompagnement spirituel. Le travail est énorme. Comment redonner confiance à un peuple qui ne sait plus où il va ? Jésus est ému jusqu'aux entrailles, nous dit le texte grec. Jésus est pris de compassion, qui n'a rien à voir ici avec une forme de piété ou de pitié humanitaire, mais qui s'identifie avec la miséricorde, avec la tendresse de Dieu. Il y a vraiment du travail pour tous. La moisson est grande. Priez donc le propriétaire de la moisson d'envoyer plus d'ouvriers pour rentrer sa moisson. Jésus, tout Jésus qu'il est, ne peut être partout à la fois. Il a besoin d'aide pour mener jusqu'au bout sa mission. Alors aujourd'hui, ce n'est plus un, mais 12 disciples que Jésus appelle et en même temps 72 disciples, si nous lisions l'évangile de Luc. Il s'entoure donc d'une équipe qui comprend 12 hommes à qui il donne le pouvoir de guérir toutes les maladies et les infirmités, mais aussi le pouvoir de chasser les esprits mauvais. Nous ne pouvons pas rester insensibles au choix des personnalités dont Jésus s'entoure. Le groupe est composé de personnes différentes, aux caractères les plus variés, aux origines les plus diverses. Il y a des pêcheurs comme Simon-Pierre et son frère André, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, Philippe, Barthélemy, appelé aussi Nathanaël. Il y a Thomas, appelé Didyme, celui qui doutera de Jésus le soir de sa résurrection. Il y a Matthieu, le collecteur d'impôts, un paria de la société. Il y a Jacques, le fils d'Alphée. Il y a Thaddée, appelé aussi Jude, et Simon le zélote, qu'on pourrait qualifier de nationaliste pur et dur. Il y a aussi Judas, celui qui trahira Jésus. Et Jésus s'entoure d'hommes dont certains ne sont pas du tout acquis à sa cause. Il ne les choisit pas en fonction de leur notoriété ni en fonction de leur qualité ou de leur charisme. Il les choisit seulement pour travailler avec lui. 12 disciples. Un chiffre symbolique qui rappelle les 12 tribus d'Israël, c'est-à-dire tout Israël, signifiant ainsi la totalité. 12 personnes différentes qui manifeste aussi la diversité du groupe, mais sa complémentarité. Ils sont appelés pour rester avec Jésus, puis pour être envoyés. Et c'est ce que veut dire le mot apôtre. Un apôtre, c'est un envoyé, et ils vont recevoir une mission. Quelle est-elle, cette mission ? Jésus donne ses instructions. En chemin, prêchez et dites « Le royaume des cieux est tout proche de vous. Guérissez les malades, ramenez les morts à la vie, purifiez les lépreux, chasser les esprits mauvais. La mission des disciples est étroitement liée à celle de Jésus. Et elle consiste à mettre en place un nouvel art de vivre ensemble entre les êtres humains en enlevant tout ce qui empêche la vie d'advenir dans les corps, les esprits et les cœurs de chaque personne. Mais cela commence par une proclamation. Les temps sont accomplis, le règne de Dieu s'est rapproché. Jésus a déjà lancé l'appel de son évangile quelque temps auparavant, assis dans une barque sur le lac. Cet appel à écouter, à recevoir, puis à se mettre en route. Cet appel qui fera le tour du monde, qui mettra en route des millions d'hommes à travers les siècles, cet appel qui fondera le christianisme et avec lui une part essentielle de notre culture. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Et c'est au tour des disciples de Jésus de se préparer à prendre le relais, et nous n'en sommes qu'au début. Mais nous ne pouvons pas mettre de côté cette première instruction de Jésus. N'allez pas dans les régions habitées par les non-juifs. N'entrez pas dans les villes de Samarie. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. L'envoi des apôtres est raconté dans les trois évangiles, Matthieu, Marc et Luc. Mais seul Matthieu rapporte cette particularité, celle de ne pas aller en dehors d'Israël. Et c'est là qu'intervient la rédaction de l'évangile. Contrairement aux autres évangélistes qui s'adressent aux communautés païennes, Matthieu est juif. Il s'adresse aux communautés juives. Et ce sont ces communautés qui sont pour lui les bénéficiaires privilégiés du ministère de Jésus et celui des disciples. Jésus est là d'abord pour les siens, avant d'être là aussi pour les autres nations. En tout cas, c'est ce que Matthieu a compris de la présence de Jésus, et de plus, Matthieu voit en Jésus l'accomplissement de toutes les promesses et de toutes les prophéties annoncées dans le Premier Testament. C'est d'ailleurs ce qui fait l'originalité de la prédication de Matthieu. Alors, il est important que la bonne nouvelle soit annoncée premièrement à celles et ceux à qui elle a été promise. C'est à Israël et à l'intérieur d'Israël, à celles et ceux qui attendent la délivrance et la consolation que le royaume des cieux est donné en la personne de Jésus. La mission des disciples changera après la résurrection de Jésus, quand ils s'apercevront que Jésus était venu pour les siens et que les siens ne l'ont pas reçu. C'est plus tard qu'ils seront appelés à l'extérieur d'Israël. Il faudra encore attendre Pentecôte pour qu'ils partent annoncer la bonne nouvelle, non seulement dans leur pays, mais au-delà de ses frontières, quand ils n'auront plus peur de témoigner de Jésus-Christ. Alors, amis, frères et sœurs, c'est sur ce petit détail de l'évangile de Matthieu que je souhaite rester aujourd'hui. Ce qu'il est demandé aux disciples, avant d'aller au bout du monde, c'est de vivre au plus près le ministère de Jésus au quotidien. Le pouvoir qu'ils reçoivent de lui est le même que le sien. Il faut donc que les disciples changent de comportement et vivent différemment pour que le royaume des cieux, présent en la personne de Jésus, soit reçu, compris, puis annoncé. C'est le temps de l'édification intérieure du groupe. Prendre le temps de vérifier auprès de Jésus tout l'enseignement qu'ils ont reçu à la synagogue, et il n'y a peut-être pas si longtemps. La mission que ces hommes reçoivent est importante. Elle ne semble rien avoir avec les métiers qu'ils exercent, et sans doute rien à voir avec l'éducation et la formation qu'ils ont reçue dans leur famille. D'ailleurs, on a peu de renseignements concernant les disciples du Christ. Quel métier exerçaient Philippe et Barthélemy? Quelle était la profession de Thomas? Et de quel milieu venaient-ils? On n'en sait rien. Tout ce que nous savons, c'est que Jésus fait un tri parmi tous ceux qui le suivent. Il les choisit sans qu'on en connaisse la raison, si ce n'est de les envoyer en mission avec cette mission: guérir les malades, ressusciter les morts, purifier les lépreux, chasser les démons. Autrement dit, c'est une mission de réconciliation vitale de chacun avec son être profond. Une mission de rétablissement des relations de chacun avec les autres et par voie de conséquence avec Dieu. Comment recevoir cette mission attribuée aux apôtres? Leur mission est-elle la nôtre aujourd'hui? Que nous soyons des chercheurs de Dieu, que nous croyions ou que nous doutions, nous sommes appelés. Et puis un jour, pour peu qu'on ait dit oui, même timidement, nous sommes envoyés à notre tour pour proclamer la bonne nouvelle du royaume qui, en Christ, s'est rapproché de chacun et chacune de nous. Même s'il prend des formes nouvelles, le travail reste le même. Réconcilier chacun, chacune avec sa propre vie, si jamais celle-ci est surprenante, déstabilisante, ébréchée, fissurée, détruite. Écouter, guérir, soigner, redonner une dignité en chassant tout ce qui aliène l'être humain, au sens propre comme au sens figuré. Alors cette mission nous expose le plus souvent à l'extérieur de notre communauté et nous implique ailleurs dans la société et dans d'autres milieux ecclésiaux. Il y a l'accompagnement spirituel et religieux des personnes hospitalisées, des personnes emprisonnées, mais aussi des réfugiés, des sans-domicile fixe, tout ce que nous allons regrouper sous le terme de la diaconie ou de l'entraide. Mais il y a aussi, sur un autre plan, les relations entre nos différentes églises chrétiennes, ce que nous appelons le dialogue œcuménique, et aussi les rencontres avec les autres religions, ce que nous appelons alors le dialogue interreligieux, sans oublier les relations entre les différentes dénominations protestantes aux tendances des plus conservatrices aux plus libérales. Comment concilier toute cette mission? Certains jours, on peut se sentir comme des brebis dispersées, perdant leur point de repère et incapables d'être de vrais témoins. Cela rejaillit alors localement sur la vie de notre propre communauté. Et depuis de nombreuses années, le visage de nos églises protestantes change. La théologie de notre Église évolue. Il y a de moins en moins de protestants du sérail et de plus en plus de personnes qui choisissent de l'être et qui en font la démarche, souvent officiellement. Il y a donc chez nous, entre guillemets, des personnes qui viennent d'ailleurs, avec leur tradition, leur éducation, mais aussi leur personnalité, leurs revendications, et ils nous bousculent dans notre façon de faire, notre façon de croire. Ils remettent parfois en question notre façon d'agir et de témoigner. Alors nous tournons en rond et nous sommes comme des brebis dispersées, comme si elles n'avaient pas de berger, comme si nous n'avions plus de berger. Et pourtant nous sommes tout comme les apôtres, avec la même mission qu'eux, que je résumerai par ces mots. Témoigner de l'Évangile, annoncer que le règne de Dieu s'est rapproché. Et nous sommes envoyés à notre tour tels que nous sommes par le Dieu de Jésus-Christ, en qui nous plaçons notre foi, même balbutiante, mais qui regarde ni à nos qualités et encore moins à nos défauts, mais simplement à notre disponibilité. Souvent, nous faisons le constat de la pauvreté de notre service et nous ne savons plus comment faire face à notre découragement à cause de l'ampleur de la tâche. Sans doute est-ce le moment de nous rappeler que, avant d'aller à l'extérieur, il est nécessaire de se souvenir de qui nous sommes et ce que nous croyons. Cette première instruction de Jésus aux disciples nous invite à prendre le temps de revisiter nos convictions. Que croyons-nous ? Que voulons-nous annoncer ? De qui voulons-nous témoigner ? Et est-ce que nous le faisons vraiment ? Mais alors, d'où viennent parfois cette peur et cette réticence à nous impliquer dans la vie de l'Église, par exemple ? Et en tant que protestants, lorsque nous nous réclamons de la grâce seule, est-ce que cela veut dire encore quelque chose pour nous? Et lorsque nous affirmons la primauté et la souveraineté de la Bible dans notre vie chrétienne, est-ce que nous en vivons réellement? Est-ce que nous prenons vraiment le temps de lire et de méditer la Bible au quotidien? Et quel temps consacrons-nous à la prière, et comment se manifeste notre fidélité? Est-ce que nous osons confronter avec d'autres personnes nos idées sur la foi? Et comment est-ce que nous encourageons nos enfants à suivre une instruction religieuse? Peut-être venir avec nous au temple. Au fond, que veut dire être chrétien et être protestant? Alors bien sûr, ce serait facile d'allonger la liste de ces questions qui permettent d'approfondir ce que nous croyons. Il n'y a pas que nos églises ou notre société qui changent, il y a nous aussi. Et la fermeté de nos convictions n'est pas toujours aussi solide que nous l'aurions souhaité. Que faisons-nous de nos remises en question personnelles, de nos doutes et de nos révoltes? À qui les confier? Et que faire de la réponse que l'on reçoit ou que l'on ne reçoit pas? Comment est-ce que nous retournons à la source afin d'être revivifiés? Il est encore temps, toujours temps, de se rappeler que nous ne pouvons pas être chrétiens tout seuls, et certainement pas être protestant tout seul. Ce serait une illusion. C'est tout l'intérêt de revenir sur l'importance de la construction de la communauté, ce que j'appellerais volontiers ici l'église locale. Alors les activités que propose chaque paroisse, celles que vous découvrirez dans quelques temps, grâce à la feuille rose, eh bien, ce ne sont pas simplement des activités d'un club auquel les membres pourraient adhérer, mais il s'agit de beaucoup plus que cela. Chaque activité est l'occasion d'une rencontre, d'une nouvelle relation à vivre, non seulement entre nous, mais avec le Dieu de Jésus-Christ. Et c'est chaque jour que nous avons à redécouvrir que nous sommes enfants du même Père. Surtout lorsque nous en doutons, surtout lorsque nous ne comprenons plus la Bible et encore moins l'évolution de notre Église ou de notre protestantisme. Nous sommes appelés à témoigner de notre foi à l'extérieur et parfois cela nous fait peur. Mais nous pourrons le faire en toute liberté lorsque nous aurons vaincu cette peur. Car lorsqu'on approfondit ses convictions, lorsque nous prenons le temps de lire la Bible ensemble et de voir ce que cette parole a encore à nous dire aujourd'hui, mais aussi lorsque nous prenons le temps de nous former, ou que nous soyons catéchètes, conseillers, prédicateurs, ou même sans avoir de responsabilité dans l'Église, eh bien, nous sommes des chrétiens toujours à rechercher l'approfondissement de notre foi, et c'est ainsi que nous apprenons toujours à mieux savoir qui nous sommes et ce que nous croyons, et ainsi de ne plus avoir peur de témoigner du Christ puisqu'il nous fait vivre intérieurement. Et donc, c'est bel et bien à une évangélisation intérieure, à une évangélisation de nos profondeurs que nous sommes appelés. Nous recevons, comme les apôtres, les mêmes pouvoirs qu'eux, même s'ils se manifestent autrement, et la même mission qu'eux, de guérir, de réconforter, d'encourager, d'éclairer, de redonner du sens, de redonner confiance, bref, ressusciter. Mais prenons le temps de vérifier la place que le Dieu de Jésus-Christ tient dans notre vie, d'abord dans notre foi personnelle, mais aussi en partageant tout cela avec les autres, au sein de notre communauté. Oui, penchons-nous ensemble sur les questions actuelles et vitales de notre société sur le plan éthique, écologique, sur le plan de la justice sociale et de la liberté d'expression. Oui, venons au culte, emmenons nos enfants à l'éducation biblique, encourageons aussi les mouvements de jeunesse, construisons notre solidarité par notre présence au groupe d'entraide, fortifions notre être intérieur par la rencontre fraternelle, et alors la joie de notre service fera plaisir à voir parce que nous serons enfin heureux de suivre Jésus et d'annoncer l'Évangile, et pourquoi pas jusqu'au bout du monde. Amen.